RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Nous sommes le 4 octobre, c'est aujourd'hui la Saint-François d'Assise et ce matin on s'intéresse à cette grande figure spirituelle désignée patron des écologistes par Jean-Paul II en 1979. Alors contrairement à ce que vous venez d'entendre, à partir de 10h, on vous proposera exceptionnellement de réentendre le témoignage du franciscain Hervé Covès, religieux de la famille fondée par François d'Assise et qui a vécu lui-même une véritable conversion écologique. Ce sera Visage avec Thierry Yonnet, donc à partir de 10h, un témoignage qui viendra en écho à cette première partie de Je pense donc j'agis, pendant laquelle nous allons justement nous demander si François d'Assise peut être aujourd'hui un guide pour la conversion écologique. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages pour en parler. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que François d'Assise est une figure importante pour vous? Pensez-vous qu'après de 800 ans de distance, il puisse nous inspirer aujourd'hui pour répondre aux défis écologiques du 21e siècle? On vous attend à l'antenne au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à direct@rcf.fr et puis toujours dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Bonjour Anne Kerléo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes la rédactrice en chef écologie RCF et ce matin, on se demande donc si François d'Assise peut être un guide pour vivre la conversion écologique.
Oui, et je voudrais m'arrêter pour introduire le sujet à cette expression de conversion écologique. Conversion en latin, ça veut dire littéralement retournement, changement de direction. Cela montre bien la radicalité du mouvement à opérer et le choix de cette expression par le pape François dans son encyclique Laudato Si n'est pas anodin. Plus que jamais aujourd'hui, après un été marqué par des épisodes climatiques violents, on sent bien qu'il faut changer individuellement et collectivement, mais ce n'est pas si simple. Nous sommes engoncés dans des habitudes personnelles et collectives qu'il est difficile de quitter. Beaucoup d'entre nous sont conscients des enjeux écologiques, aimeraient y répondre, être à la hauteur des défis, mais se sentent un peu perdus, ne sachant pas par où commencer. Et si un homme qui a vécu il y a près de 800 ans pouvait nous aider, être comme un guide pour opérer ce changement? Dans l'introduction de l'encyclique Laudato Si, le pape François décrit François d'Assise comme un beau modèle capable de nous motiver. Et il écrit encore « Je crois que François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale vécue avec joie et authenticité. » Alors ce matin, on vous propose de se mettre à l'école de Saint François d'Assise.
Mathieu. Avec nos deux invités qui sont avec nous dans cette première partie et qui se sont déjà mis à cette école.
Oui, c'est le cas de le dire, puisque l'un et l'autre sont des religieux de la famille franciscaine, ancrés donc dans cette spiritualité de Saint François. Bonjour sœur Hélène Versavel.
Bonjour Anne, bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous êtes sœur de Saint-François d'Assise, l'une des nombreuses congrégations féminines de la famille franciscaine. Vous êtes responsable de la commission Laudato Si du diocèse de Sées dans l'Orne. Je remercie au passage l'équipe de RCF Orne et en particulier Hubert Moritz qui nous permet de faire ce matin ce duplex avec vous. Et puis bonjour à vous frère Éric Bidot.
Bonjour, bonjour à chacun.
Vous êtes le provincial, c'est-à-dire le responsable, pour dire vite, des frères mineurs capucins de France. Alors les capucins, c'est l'une des trois branches masculines de l'ordre franciscain, on peut dire comme ça?
Voilà, c'est ça. Nous sommes un ordre où il y a beaucoup de réformes, beaucoup de vivacité. Alors ça donne des pousses qui ont une longévité plus ou moins longue et les capucins en font partie, aux côtés donc des frères mineurs, dits franciscains en France, et des frères mineurs conventuels.
Alors je précise pour ceux qui auraient envie de poursuivre la rencontre avec vous au-delà de cette émission, vous êtes l'auteur d'un livre qui a pour titre « La création retrouvée, l'écologie selon Saint François ». C'est paru l'an dernier, en 2021, aux éditions de l'Emmanuel. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin.
Et on commence, pour ne pas changer nos bonnes habitudes, avec la chronique « Tout est lié ». Et ce matin, on accueille Stécie Algrin.
Bonjour Stécie.
Bonjour.
Alors, vous nous apportez ce matin un point de vue intéressant sur François d'Assise parce que vous l'avez découvert tout simplement à l'occasion de la préparation de cette émission et de cette chronique.
Oui, tout à fait. Donc, quand j'ai préparé cette chronique, j'ai donc découvert un peu une histoire incroyable et j'ai été complètement bluffée. Issu d'une bonne famille, véritable consommateur de son époque, il buvait, mangeait et faisait la fête. Sans repère historique, on le confondrait presque avec un jeune du 16e parisien.
Et puis, le cours de sa vie a changé.
Oui, un peu comme bon nombre de mes potes en boîte de conseil, notre Saint-François a pris conscience du manque de sens de son existence. Bon, faut dire que partir à la guerre, y être fait prisonnier, puis tomber malade, ça a dû pas mal aider niveau remise en question. Après sa convalescence, il plaque tout. Exit la vie de la petite bourgeoisie italienne, il décide de reprendre en main sa foi chrétienne et d'être cohérent. Il va même jusqu'à adopter la tenue du pauvre, long vêtement gris ceinturé à la taille par un cordon, la simplicité est le maître mot. Sinon, outre ce rejet des tendances vestimentaires de l'époque, François d'Assise va dédier sa vie aux démunis et aux marginalisés. Tel un militant anticapitaliste, il dénonce les injustices et s'oppose à toute appropriation jusqu'à devenir notre patron à tous, les écolos.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le premier écologiste de l'histoire, selon vous ?
Ce serait quand même anachronique de définir François d'Assise comme écologiste, puisqu'à l'époque, le mot n'existait même pas. Mais franchement, niveau engagement, on est vraiment pas mal. Parce que pendant que nous, on éteint notre Wi-Fi et qu'on n'utilise plus de paille pour boire nos cocktails, François, lui, quand il marchait, il prenait soin d'enlever les vers de terre pour ne pas les écraser. Il paraît même qu'une fois, il a racheté plusieurs moutons à des bergers qui allaient les conduire à la boucherie pour les confier plutôt à des bonnes sœurs. Je parie que s'il avait vécu à notre époque, le fondateur de 1214 aurait été ses premiers fans et on aurait déjà tous des pins avec sa photo. Si, si, je vous jure. Imaginez Greta Thunberg et François d'Assise. Ça ferait un sacré duo, non ? Ce cher François, lui qui prêchait aux oiseaux, aux poissons, aux loups de Gubeau, lui qui défendait l'idée que la Terre prend soin de nous et que l'homme ne doit pas la dominer. Lui qui fut le véritable frère de la Terre, de l'eau, du feu, des plantes, des insectes, et aussi du soleil, de la lune et des étoiles. Lui qui appelait toutes les créatures frères et sœurs, que dirait-il s'il voyait ce que nous avons fait à notre terre ? Que dirait-il face au triste spectacle de nos forêts en flammes ou de nos océans pillés ? Irait-il lui aussi attaché ? Serait-il parmi celles et ceux qui font chaque jour le choix de désobéir ou de ceux qui désertent ?
Merci beaucoup Stécie Algrin, pardon pour ces petits problèmes de liaison. La semaine prochaine, c'est Ferris Barkat que nous retrouverons pour cette chronique Tout est lié, à réentendre dès maintenant sur rcf.fr en podcast bien sûr. Et voilà, une fois de plus Anne, ça nous donne de la matière pour l'émission.
Oui, et puis si vos oreilles ont souffert hein, parce que vous l'avez dit, il y a des petits soucis, on peut retrouver la chronique avec aussi le texte pour le relire tranquillement, cette version découverte de Saint-François qui décape ce matin. Sœur Hélène Versavel, vous avez écouté Stécie Algrin, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'elle a dit ? Est-ce que vous imaginez, comme elle le disait à la fin, Saint-François qui, s'il vivait dans notre 21e siècle, irait peut-être s'attacher aux portes des puissants, comme elle le disait ?
Alors, j'avais pas entendu le porte des puissants, ça a dû faire partie des petits sons bizarres. Mais par contre, j'ai bien aimé l'image de Saint-François avec Greta Thunberg, où voilà, c'est vraiment quelqu'un voilà de très radical qui a envie que la vie sur Terre soit la plus heureuse et la meilleure possible, et ce dans la simplicité et l'attention à chacun et à chacune.
Éric Bidault, comment cette chronique a-t-elle résonné à vos oreilles ?
Alors je reprends le mot radical qui renvoie à la racine. En fait, François, c'est un homme de la racine, des choses, du réel. Alors on a parlé du ver de terre, du mouton. Il y a une question de regard derrière. C'est-à-dire que le ver de terre, c'est quand même Jésus qui, en disant le psaume 21 sur la croix, induit « je suis un ver, pas un homme », c'est-à-dire « je suis méprisé ». Je dis ça parce que le mouton, c'est pareil, c'est l'agneau, voici l'agneau de Dieu. Il y a toujours une dimension symbolique aussi, qui était peut-être naturelle, plus simple, dans une époque où la technique avait moins d'importance. François voit, et ce qu'il voit le renvoie à la racine des choses et à la création, et donc au Créateur. Je dis ça en trois mots, c'est un peu balancé comme ça rapidement. Mais c'est pour dire aussi, ce fameux « tout est lié » de Laudato si, c'est que il y a un lien entre les éléments et il y a un lien au Créateur, et le Créateur s'exprime d'une certaine manière dans les éléments.
Alors, en soumettant le sujet à Stécie avant cette émission, à chaque fois, hein, c'est la surprise pour nos chroniqueurs et ils sont inspirés ou pas. Et Stécie, elle nous a confié qu'elle ne connaissait pas Saint François d'Assise. Comment vous réagissez à cela l'un et l'autre pour des jeunes aujourd'hui qui le découvrent, qui peut-être sont pas chrétiens? C'est une figure qui peut encore parler, Hélène Versavel?
En tout cas, moi, elle me parle. Alors, j'espère qu'elle parle à plein d'autres. Voilà, oui, bien sûr, il peut parler. Stécie a parlé de cohérence à un moment, Et je crois que c'est vraiment l'exemple même de quelqu'un qui essaye de vivre une conversion totale à Dieu à partir de sa découverte ou sa redécouverte, et qui essaye de vraiment mettre chacun de ses pas dans la suite du Christ. Et quand il a découvert que Dieu est son Père et qu'il est le Père de tous et de toutes les créatures, il a vraiment essayé de faire en sorte de mettre cette découverte au service de sa vie quotidienne, dans l'attention aux plus pauvres, dans l'attention à la création.
Frère Éric, c'est une figure moderne, ce saint qui a vécu il y a 800 ans. Il peut parler à des jeunes de la génération de Stécie.
Je pense que oui, au sens où c'est un homme entier. C'est-à-dire, François est un primaire, au sens, il agit et après il se dit, oh là, au fait, est-ce que c'est bon? Est-ce que je me suis trompé? On voit des histoires où il demande à un frère quelque chose et ensuite il va aller lui demander pardon, disant non, mais en fait, c'est moi qui devrais être à ta place. Donc François, c'est un homme entier. C'est un homme qui, une fois encore, se trompe, demande pardon, a des intuitions. Et pour nous aujourd'hui, qui sommes plus émotifs peut-être que raisonnables par certains côtés, je pense que c'est un homme qui parle par ses intuitions et puis sa manière de les mettre en œuvre et sa manière de lier ses intuitions et la réalité aussi. Pas en rester simplement à des perceptions extérieures, mais aussi de se retrousser les manches. Alors, et là, on retrouve la générosité de beaucoup qui s'engagent dans des missions à l'étranger ou dans des maraudes au service des autres. Donc avec tout un lien de transformation du réel.
Ah bah, ce mot-là va nous faire une transition. Vous parlez de transformation. On a employé depuis cette émission déjà à plusieurs reprises le mot de conversion. Je voudrais qu'on s'arrête à ces notions-là. On a beaucoup parlé de transition écologique. Récemment, on a vu émerger l'expression de transformation écologique. Et puis, il y a cette expression employée par le pape François, notamment dans Laudato Si, de conversion écologique. Alors, est-ce que pour vous, elle dit quelque chose de différent? Est-ce qu'elle apporte un éclairage particulier sur ce qu'on a à vivre collectivement là pour construire un monde durable, sœur Hélène?
Quand j'entends conversion écologique, c'est vrai que pour moi, derrière le mot conversion, il y a vraiment cet aspect de lien important dans quatre dimensions qui sont bien présentes, entre autres dans Laudato Si, c'est-à-dire la relation à soi-même, la relation à l'autre, la relation à la création et la relation à Dieu. Et je crois que la conversion, elle est dans cette articulation de ces quatre relations qui sont à creuser chacune à son tour ou tout en même temps. Et quand on arrive à creuser ces quatre relations et à vivre en cohérence avec ça, on est dans un début de conversion écologique parce que on prend en compte l'ensemble du créé qui est autour de nous.
Frère Éric Bidot.
Alors quand j'entends ce mot conversion, je pense tout de suite à une expression de l'encyclique Laudato Si, c'est au numéro 233, quand le pape François, qui reprend un théologien franciscain, Bonaventure, dit qu'il y a une mystique dans une feuille. Et ce mot mystique dit en fait la profondeur des choses. Je parlais de la racine, de la radicalité. Notre regard, et c'est cela la conversion, et un regard qui ensuite conduit à des actions concrètes, à une manière concrète de se situer dans la réalité, le regard voit au-delà d'une apparence seulement matérielle. Il essaye d'aller dans la profondeur des choses. Et la mystique d'une feuille, ça suppose d'abord d'apprendre à poser son regard sur les choses, à entrer d'une certaine manière en relation et à se laisser enseigner aussi par les choses.
Comment faire ça à l'heure de l'urgence écologique où on pourrait se dire « mais on n'a pas le temps de regarder une feuille, il faut aller vite, faire des choses très vite ».
Eh bien, certes, il faut avancer, mais avancer dans n'importe quel sens, n'importe comment, sans justement que nos avancements correspondent à des changements de tout notre être, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là-dedans est engagé notre corps, notre rapport à l'extérieur, notre sensibilité, notre esprit aussi, et puis la présence de Dieu en nous. Sœur Hélène a parlé justement de toutes ces dimensions, c'est tout qui est engagé. Alors bien sûr, il y a des aspects qui peuvent avancer peut-être plus vite, j'ai envie de dire de nos personnes, mais nous sommes un peu des titaniques, nous, hein, c'est-à-dire que notre esprit peut voir quelque chose, mais le corps, le temps qu'il bouge, le temps qu'il évolue, vous l'avez bien souligné, hein, on a chacun des pas à faire. Mais si certains éléments doivent aller vite, et je pense que là on parle de décisions politiques aussi, on parle de décisions collectives, on sait bien que chacun, on bidouille dans notre coin un petit peu, mais qu'on a besoin aussi de signes forts collectifs.
Alors en quoi sur ce chemin, Sœur Hélène, la conversion de François peut-elle nous aider ? Il ne s'agit pas, évidemment on le disait, le mot écologie n'existait pas à l'époque, c'est une conversion spirituelle, mais est-ce qu'elle peut nous enseigner des choses sur pour aller vers la conversion écologique ?
Oui, c'est pas très évident à expliquer, mais je crois que François, dans sa conversion à lui, elle a été vraiment progressive. Il y a eu des songes, des moments un peu forts quand le Christ de Saint-Damien lui parle, etc. Mais en même temps, c'est aussi dans un temps où il prend du temps de solitude très longtemps, il essaye de comprendre ce qui lui arrive. Et je crois que voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là, à la fois dans l'urgence, dans l'attention à ce qui se passe autour de lui, la rencontre avec le lépreux qui est un des points les plus importants de sa conversion, quand il rencontre un lépreux sur sa route et qu'il se dépasse pour aller l'embrasser, et que voilà, c'est il y a quelque chose de voilà, un truc très fort. Et puis après, comme a dit frère Eric, et bien, il réfléchit à ce qui vient de lui arriver, et puis il avance doucement mais sûrement. Je crois qu'il y a vraiment de ça.
Même question, frère Eric, en quoi la conversion de François peut-elle nous éclairer pour la nôtre écologique aujourd'hui ?
Ben, je rebondis sur ce que disait sœur Hélène, au sens à la fois du retrait et de l'action. Jésus, dans l'Évangile, c'est un homme de la montagne, quand il prie, quand il est dans cette intimité plus explicite avec son Père, et c'est un homme de la plaine. C'est-à-dire, c'est de se laisser toucher par des situations concrètes, c'est d'essayer d'apporter une réponse à sa mesure, par une parole, par des actes. Et je pense que c'est dans cette alternance aussi, on ne peut pas être que dans la frénésie, même s'il y a une véritable urgence, on le sait, mais aussi dans cette alternance un peu de, j'ai envie de dire, de retrouvailles avec soi-même, avec cette présence de Dieu qui aussi approfondit notre regard, notre pensée sur les situations, et puis des engagements concrets à notre mesure et avec d'autres aussi.
Vous êtes sur RCF, nous parlons de Saint-François d'Assise ce matin, car c'est aujourd'hui le 4 octobre, c'est la Saint-François d'Assise tout simplement. On s'intéresse à cette grande figure spirituelle désignée patron des écologistes par Jean-Paul II en 1979. Et vous avez la parole bien sûr pour réagir et apporter vos témoignages. Est-ce que François d'Assise est une figure importante pour vous ? Et puis pensez-vous qu'après de 800 ans de distance, il puisse nous inspirer aujourd'hui pour répondre aux défis écologiques du 21e siècle ? On vous attend au 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
Je vous lis un petit message de Solange. Nous avons enterré notre chat, notre amour de chat, et l'avons confié à Saint François d'Assise, le saint patron des animaux. Voilà ce que Solange voulait nous dire ce matin. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi, frère Éric Bidault, que Saint François d'Assise et les animaux, c'était une vie.
C'était une vie, c'était des relations. C'est ce qu'on entend aussi dans le témoignage de votre auditrice. C'était des relations, et des relations à restaurer, à réconcilier, à apprivoiser. Bien sûr, on a tous à l'esprit la fameuse rencontre avec le loup de Goubiot, dont on peut se dire aussi c'est une manière de se réconcilier avec notre propre loup ou nos loups intérieurs aussi. C'est-à-dire c'est une manière d'essayer de mettre en œuvre cet appel de Jésus aussi, hein, allez dans les villes, etc., et dites que le Seigneur vous donne sa paix.
Vous dites
c'est-à-dire d'arriver en personne de paix, en personne qui, autant qu'elles le peuvent, sont pacifiées aussi.
Vous dites on l'a tous à l'esprit, mais peut-être pas en fait. Peut-être que certains ce matin ou certaines comme Stécie découvrent Saint-François d'Assise. Vous voulez nous la raconter, cette rencontre avec le loup ?
Alors, fameuse violence du loup qui est faite aux poules et aux habitants d'un village, donc Goubio, pas très loin d'Assise. Et François vient un peu là en mandataire de la population et va rencontrer le loup pour l'inviter justement à ce respect mutuel, c'est-à-dire à écouter en fait les besoins de chacun. Quel est ton besoin et pourquoi cherches-tu à le satisfaire de cette manière ? Et finalement, cette voracité qui peut rejoindre aussi la nôtre, hein, François va en quelque sorte l'orienter, la dompter dans ses paroles avec le loup, et l'on va assister à cette capacité de vivre ensemble qui reconnaît la place de chacun et qui reconnaît les besoins de chacun.
Alors ça, c'est quelque chose quand même d'assez nouveau. On parle aujourd'hui beaucoup du besoin qu'il y a à renouveler notre relation au vivant, à reconsidérer la nature d'une autre manière. C'est pas quelque chose de si évident que ça. On sait pas forcément très bien comment faire. Sœur Hélène, là-dessus, est-ce que justement François d'Assise peut nous aider à avancer, à creuser ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette fameuse expression « renouveler notre relation au vivant » ?
Ben, c'est peut-être déjà, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, prendre le temps d'aller contempler ce vivant, d'aller à sa rencontre. Il y a des trucs qui font parfois rire, hein, les gens qui embrassent les arbres, ça devient quelque chose un peu à la mode. Mais sans aller jusque-là, je dirais qu'une des choses qui peut vraiment nous aider à nous reconnecter au vivant, c'est de prendre le temps d'aller le rencontrer. D'aller en forêt et pas juste marcher, courir, mais de s'asseoir, de regarder, de contempler. Tout à l'heure, frère Eric parlait de la contemplation de la feuille. On peut juste prendre le temps d'écouter. Moi, je suis fan d'ornithologie, donc j'écoute beaucoup les oiseaux parce que dans les feuilles, c'est difficile de les voir. Mais voilà, c'est ce temps de redécouverte de ce qui nous entoure. Quand c'est le vivant de la création en général, j'allais dire, et puis se reconnecter aussi les uns aux autres, se passer de tous nos artifices tels Internet, le téléphone et tout ça, et de retrouver le lien humain et avec d'autres.
En vous écoutant, on se dit, ça suppose de changer quand même sacrément nos rythmes et nos manières de vivre.
Ah, c'est certain. C'est vrai que essayer de plus je suis très mal placée parce que je fais 100 km par jour pour aller travailler, mais éviter de prendre des heures et des heures dans les transports, et de passer du temps dans et puis si on peut prendre qu'une demi-heure et aller l'autre demi-heure dehors, prendre l'air et aller contempler, retrouver un petit peu ce lien, ou aller prendre du temps dans, je dis bêtement, une maison de retraite avec des personnes âgées seules, ou dans des rencontres en détention, en prison, pour aller voir les plus fragiles aussi d'un autre type.
Frère Eric ?
Ben, nous sommes des êtres de parole, hein, et constitués par la parole aussi. Et ce que nous pensons avec une vision chrétienne de la création, c'est qu'il y a de multiples paroles et il y a de multiples échanges aussi. En fait, je dirais que cette relation au vivant, c'est un peu d'entrer dans cette conversation avec des éléments de la création. Certains sont inanimés, certains sont animés, d'autres sont végétaux, des animaux. C'est d'entrer dans cette conversation. Et la conversation, c'est pas un monologue non plus, hein. Donc il y a un travail d'écoute et un travail de prise de parole aussi. On voit bien ça dans la vie de François, dans cette capacité à se retirer et aussi à parler avec les oiseaux, par exemple, et d'autres éléments du créé.
Patrice, vous êtes le premier à nous rejoindre ce matin. Bonjour à vous.
Bonjour Melchior, vous m'entendez bien ?
On vous entend bien et on vous écoute surtout.
Et moi je vous remercie de votre voix chaleureuse et de votre présence. Donc, comme je disais à votre personne tout à l'heure, que
Oui, je vais vous laisser couper votre radio, Patrice, derrière,
oui,
si ça ne vous dérange pas.
Je vais la couper.
Comme ça, il n'y aura pas d'écho. Et on va pouvoir vous entendre distinctement. Et ça me donne l'occasion de vous rappeler que vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour apporter vos témoignages en direct. Patrice, on vous écoute.
Bon, Christian Bobin, il y a plus de 20 ans, avait écrit un livre sur François d'Assise qui s'appelait « Le plus bas ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, je l'ai interprété selon ses écrits et selon aussi ma sensibilité, c'est que nous sommes l'interdépendance avec le vivant. Donc le vivant, c'est cette prise de conscience de l'être qui est autant matérielle que spirituelle. Et plus on veut monter pour, en pensant qu'on va découvrir je ne sais quoi, eh bien ça nous ramène à notre humanité. Cette prise de conscience surtout de l'interdépendance des animaux, tout ça c'est dit par vos interlocuteurs. Et ça c'est merveilleux parce que à son époque, il en avait eu conscience, donc il a dû faire une expérience mystique pour ressentir tout cela. Et plus on avance, moi je le vois pour moi en tout cas, dans la spiritualité, ça me ramène à ces mêmes principes que lui a exprimés. Mmh. Et ça c'est merveilleux parce que cette interdépendance, c'est la vie. Et la spiritualité, c'est mort et résurrection pour aller vers la vie, toujours, toujours, toujours. Mmh. Donc c'est plein de force, c'est plein de d'espérance. Et vous voyez, juste comme ça, hein. Le cochon, on pense que c'est, on a eu des images comme ça, que c'était sale, etc. Eh bien, François d'Assise peut caresser, il caresse, je l'ai lu.
Le cochon, c'est la rivière
non,
je me trompe complètement.
Le cochon, c'est l'animal.
Ah oui, alors je suis pas expert.
Une caresse du gouin qui va chercher dans la terre sa nourriture, qui va se mettre dedans, de chercher partout.
Ah, le cochon.
Oui, et le caressant jusqu'à sa queue en tire-bouchon qui est de le spirituel redonne à l'animal cette dimension spirituelle. Et quand on voit qu'actuellement, par exemple, c'est mon cas, le pancréas ne fait pas d'enzymes, et bien ceci vous est de prendre des enzymes, de cochon.
Merci.
Donc on voit bien qu'on est en interdépendance avec la vie, ça c'est merveilleux.
Merci Patrick, je suis désolé, j'avais compris le cochon et non pas le cochon, mais voilà, vous avez bien fait de répéter. Patrice qui nous citait le très bas, hein, ce livre de Christian Bobin, frère Éric Bidault, et puis qui nous disait aussi, il faut être conscient que plus on veut monter en spiritualité, plus on est conscient du monde vivant dans son moindre détail. Je trouve ça intéressant.
Oui, et puis ça signifie aussi, par rapport à ce titre, le très bas, que et ça c'est une question de comportement, hein. Est-ce qu'on se comporte en conquérant? Est-ce qu'on se comporte en intendant? Est-ce qu'on se comporte en quelqu'un qui a à apprendre du créé? Je pense que c'est là toutes les belles expériences autour de la permaculture qui nous enseigne, qui est une forme de sagesse aussi, de sagesse pratique, de relation au vivant, et qu'on retrouve aussi dans la vie de Saint François. Il y a un passage très beau dans une biographie de Thomas de Celano où François semble entendre les fleurs lui dire « Mais regarde qui nous a créés ». Donc nous avons à nous laisser enseigner avec et par tous les éléments du vivant.
Allez, on va marquer une petite pause dans Je pense, donc j'agis. Vous continuez de nous appeler comme Patrice au 04 72 38 20 23. Tout de suite.
RCF, Thierry Lyonnais.
Découvrir les beautés de la haute montagne, pratiquer l'alpinisme, tout cela coûte très cher. Pourtant, il y a 10 ans, Hugues Chardonnet, qui est médecin, guide de haute montagne et diacre, a décidé de partager la montagne avec les plus pauvres. Il a fondé l'association 82-4000, une magnifique aventure qu'il nous raconte dans l'entretien de la semaine, ce mardi à 13h30.
Tout doux, Vincent Bellotti.
Elle, c'est l'une des actrices iconiques du cinéma français, de Truffaut à Ozon, en passant par Lelouch ou Patrice Lecomte, c'est Fanny Ardant. Et lui, avec ses lunettes rondes, eh bien c'est le prof de science qu'on aurait tous aimé avoir, à savoir Jamy Gourmaud, l'ex-animateur de C'est pas sorcier. Deux parcours différents, mais unis par la même passion, la curiosité, et deux personnalités que je vous propose de redécouvrir dans un tout doux spécial Portrait croisé.
Tout doux, c'est ce mardi à 17h.
Allez, on va écouter de la musique tout de suite sur RCF. Pas n'importe quelle musique, une chanson chantée par Angelo Branduardi qui chante le Cantique de Frère Soleil, qui est un texte de Saint François d'Assise. Et vous en profitez pour nous appeler au 04 72 38 20 23 avec vos témoignages. Venez nous parler de Saint François d'Assise et en quoi elle vous inspire encore aujourd'hui. Vous pouvez également nous laisser vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
À toi seul, mon bon Seigneur, qu'on vienne gloire et honneur. À toi seul, louange et bénédiction. À toi seulement ils conviennent, car le très haut seul tu es, et nul homme n'est digne de te mentionner. Loué sois-tu, mon bon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement au frère soleil qui donne le jour. C'est par lui que tu nous éclaires, qui rayonne de splendeur. De toi très haut, bon Seigneur, il est le symbole. Loué sois-tu, mon bon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Au ciel tu les as créées, précieuses et belles. Loué sois-tu pour frère vent, pour l'air nuage et mauvais temps. Par lesquels à tes créatures soutien tu donnes. Sois-tu mon bon Seigneur, pour ce rôle-là précieuse, qui humblement et chastement est très utile. Loué sois-tu pour frère feu, parmi tu illumines la nuit. Il est très beau et joyeux, robuste et très fort. Seigneur, pour sa terre, notre mère, c'est bien elle qui nous soutient et nous gouverne. Loué sois-tu, mon bon Seigneur.
Voilà le cantique des créatures chanté par Angelo Branduardi sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
Et avec nos deux invités jusqu'à 10h dont je pense donc j'agis, frère Bido et puis sœur Hélène Versavel, on continue. Et voilà, on continue Anne, simplement, avec cette chanson qu'on
vient d'entendre. Peut revenir sur le texte de ce cantique de Frère Soleil, le cantique des créatures. Quand Saint François chante « Loué sois-tu mon Seigneur par notre mère sœur terre qui nous sustente et nous gouverne », si on écoute bien, on se dit que c'est quand même assez radicalement nouveau. Vous parliez tout à l'heure de radicalité l'un et l'autre. Avant, et puis même encore après, et sans doute encore aujourd'hui, c'est l'image qu'on a du christianisme, on se disait que c'était plutôt aux êtres humains de gouverner la terre et pas l'inverse. Donc, frère Éric Bido, là, on a, enfin, même sur le plan théologique, il apporte quelque chose de complètement neuf.
Ah ben oui, c'est un coup de pied dans la fourmilière, hein, si je peux me permettre, avec la reconnaissance de cette interdépendance de tous les éléments du créé et d'une véritable autorité de la terre. Parce que c'est, dans l'italien, c'est la terre qui nous porte, qui nous nourrit, mais au sens de qui nous gouverne aussi. Et ça dit bien, en fait, ce qui est assez fort dans la théologie de François, c'est qu'à la fois c'est un homme de la Bible, c'est-à-dire que la personne humaine est l'intendante de la création, elle est au sommet de la création, mais elle est aussi, par son péché, elle s'est disqualifiée d'une certaine manière. Et dans le Cantique des créatures et à un autre endroit, François dit, en fait, « Nul homme n'est digne de te louer ». Nul homme n'est digne de te louer. Nous nous sommes disqualifiés pour la louange, nous nous sommes disqualifiés pour notre travail, mais grâce à la création, en nous remettant à l'école de la création, nous pouvons être restaurés dans cette dignité, dans cette capacité.
Ça, sœur Hélène, vous qui parliez tout à l'heure de contemplation, c'est une expérience qu'on peut faire devant la nature, de se sentir presque physiquement restauré.
Oh oui. Mais il faut essayer pour le savoir, ou au moins le sentir une fois ou l'autre. Mais c'est vrai que
Pour une anecdote, j'ai vécu un moment en région parisienne et on passait avec une de mes collègues régulièrement au-dessus du lac de Grigny. Et bon, avec le RER, bon, y a rien de très joli par là. Et en fait, à chaque fois qu'on regardait, j'avais toujours un truc. Oh, regarde, là, c'est joli. Alors, à la fin, elle me dit, t'arrives quand même à me faire trouver des trucs très moches jolis. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose à expérimenter en fait, et faut vraiment c'est une forme de conversion du regard, ne pas juste voir les barres d'immeubles moches, mais arriver à voir le coucher de soleil, la brume qui peut être au-dessus du lac, ou un vol d'oiseau ou je ne sais quoi, voilà, mais juste prendre le côté qui peut nous ramener à la vie en fait.
Alors, dans son époque, François d'Assise apportait quelque chose, une pensée radicalement neuve, une théologie radicalement neuve, mais ça vaut encore des siècles après, puisque on peut faire référence à quelqu'un que connaissent peut-être certains auditeurs, qui est un historien qui s'appelle Lynn White. Et Lynn White, en 66, avait donné une conférence qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait pour thème les racines historiques de notre crise écologique. Et dans cette conférence, il avait affirmé que, en gros, le christianisme était responsable de la crise environnementale à cause de son anthropocentrisme. Et en même temps, à la fin de sa conférence, il appelait à faire de Saint François d'Assise le patron des écologistes, ce qui fut fait par Jean-Paul II, on l'a dit, en 79. Mais ça veut dire, Éric Bideau, que même des siècles après, finalement, la théologie de François n'était toujours pas majoritaire et ne l'est toujours peut-être pas aujourd'hui.
Alors, il y a une figure lyonnaise fameuse, hein, Jean Bastère, hein, qui a beaucoup bataillé justement pour cette reconnaissance d'une pensée de François qui avait insuffisamment marqué l'Église et la famille franciscaine aussi. Hein. Jean Bastère avait des paroles assez dures, hein, sur la famille franciscaine, sans doute avec raison, au sens où on a peut-être au fil des siècles beaucoup insisté sur le travail de la raison, sur les capacités de l'homme, mais en oubliant la dimension de l'interdépendance. Et je pense que la crise, elle nous plonge là-dedans. C'est pas pour nier ce que nous sommes, mais c'est pour le remettre en situation parmi le créé. À Paris, au musée de Cluny, il y a un très beau reliquaire du XIIIe siècle, et qui est très évocateur parce qu'en fait c'est en forme de quadrilobe et François est vraiment au milieu du créé et tend les mains comme si c'était toute la création avec les arbres aussi qui par lui pouvait retrouver sa source et retrouver son créateur. Et donc je pense que c'est ce rééquilibrage à la fois entre notre dignité et cette interdépendance que nous avons à travailler.
Allez, on retourne au standard où Anne-Marie nous attend au 04 72 38 20 23. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
C'est à vous.
Alors moi, je voudrais dire qu'on n'oublie pas le scoutisme qui est dès le début du XXe siècle à prôner la nature, à la respecter et à l'aimer. Voilà.
Eh ben, écoutez, c'était un témoignage rapide mais efficace. Merci beaucoup Anne-Marie. Alors c'est vrai que sœur Hélène, on l'a dit, Saint François d'Assise, c'est le saint patron à la fois de l'écologie, de l'Italie, des animaux, mais aussi des louveteaux.
C'est possible. Alors là, pour le coup,
mince, c'est une colle.
Excusez-moi, mais alors, le scoutisme, je connais très peu, mais par contre, j'ai un tout petit lien depuis peu de temps, mais que je trouve vraiment intéressant avec les jeunes du mouvement rural de la jeunesse chrétienne,
l'MRJC. Ouais.
Et alors, sans doute autant, peut-être un peu plus tard, je ne connais pas bien l'histoire, mais il travaille aussi beaucoup sur ces questions de lien à la nature. Et cet été, à La Carneille, donc un village de l'Orne, il y a eu un camp national du MRJC qui a réuni 300 jeunes. Et pendant 15 jours, ils ont été là. Et tout le monde a été scotché, par exemple, quand ils sont partis, qu'il n'y avait pas un papier qui traînait. Et ils ont vraiment fait attention tout au long du camp. C'était vraiment credo, c'est pas le bon mot, mais dans le projet du camp de vraiment mettre en avant ce souci pour et l'attention pour le coin de nature qui les accueillait et y être vraiment attentif sur 15 jours, voilà. Frère... Désolée, oui. Je ne connais pas bien le scoutisme.
Mais il n'y a, aucun problème. Peut-être vous, frère Éric Bidot, vous voulez réagir justement là-dessus.
Alors oui, un peu plus. Ben, en fait, c'est, le scoutisme, c'est sortir de son confort, sortir de sa maison et aller vivre parmi les éléments avec le sol. Ben, c'est dur hein, quand on dort sur le sol. Il fait froid la nuit, il y a du vent, on peut être réveillé. C'est-à-dire c'est sentir par nos cinq sens aussi que nous appartenons au vivant et que ce vivant n'est pas simplement comment dire confortable comme un canapé, mais qui a aussi son âpreté, sa dureté, et donc c'est d'apprendre aussi du vivant.
Allez, on continue. Après Anne-Marie, Chantal nous a rejoint. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci. Bah écoutez, j'étais en voiture, j'ai entendu votre émission et j'ai été poussée à témoigner en fait.
Ah ben, vous avez bien fait, on vous écoute.
Et faire une petite pub pour le chemin d'Assise. Qui part de Vézelay jusqu'à Assise, 1500 km, et que nous avons emprunté avec mon mari depuis 2016. On marche 2 semaines par an. Et en fait, c'est une vraie démarche spirituelle, mais on y a trouvé beaucoup plus que ce qu'on espérait. C'est un chemin de conversion radicale, écologique, voilà, l'écologie intégrale, parce que cette marche impacte sur toutes les facettes de notre être. Voilà, au niveau corporel, au niveau spirituel, au niveau sociétal et relationnel, et forcément environnemental. Et c'est vrai que notre vie a complètement changé. Et que ce chemin d'assises continue chaque jour de notre vie, dans notre conversion. Et c'est un chemin merveilleux, extrêmement plein de lumière et de joie. Voilà. Et j'encourage tous ceux qui le peuvent d'emprunter ce chemin d'assises.
Merci beaucoup Chantal. De Vézelay à Assise, hein, ce chemin d'assises. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire ce pèlerinage, frère Éric Bidot?
Alors, pas les 1500 kilomètres et vraiment bravo à l'auditrice parce que le passage des Alpes est très très douloureux, il paraît. Hein. Il y a quand même des kilomètres. Moi, je voudrais recommander aussi le livre de Charles White, Le chemin des estives, qui est un remarquable chemin géographique et de la géographie intérieure aussi. Et à un moment, Charles White, vers le milieu du livre, a cette parole qui peut-être rejoint cette expérience de l'auditrice. En fait, toute la création semble briller de mille feux. C'est-à-dire qu'il y a toute une relation nouvelle qui, par le chemin d'appauvrissement de ses forces physiques, de son moral, etc., apprend finalement à être comblée par les éléments du créé, et tout finit par parler au cœur, par parler au sens, par parler au corps. Tout ça dans une fatigue qu'il ne faut pas nier. Hein. Donc tout ce dont on parle, ce n'est pas simplement, comment dire, coucou les petits oiseaux, tout va bien. C'est, ça passe par une âpreté, ça passe par une rudesse, mais qui n'est pas le terme de l'aventure, qui est plutôt la possibilité pour nous de nous abaisser et d'apprendre à recevoir, d'apprendre à être comblé autrement.
Cette idée de marche, de pèlerinage, Hélène Versavel, elle vous parle aussi?
Oui, beaucoup. Alors, pèlerinage, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire vraiment un en marchant comme ça. Donc, mais c'est un rêve. Peut-être qu'un jour, il se réalisera. Mais c'est vrai que si on reprend la figure de Saint François, François était tout le temps sur les chemins, en fait. Sauf quand il s'arrêtait quelques semaines pour prier dans des ermitages. Mais François parlait et il avait un code du pèlerin, je m'en souviens plus très bien, mais c'était aller toujours vers chez soi, en gros. C'était le pèlerinage, c'est vraiment une avancée pour se découvrir. Peut-être que frère Éric connaît mieux le code du pèlerin que moi, de Saint François.
Oui, enfin un tout petit peu, c'est le souvenir à la fois de l'hospitalité et puis d'une espèce de nostalgie qui nous met en route, justement, et qui fait que nous cherchons une plénitude qui est à recevoir et qui est à rencontrer.
Une nostalgie de quoi ?
Ben, la nostalgie de cette réconciliation, justement, de sortir de ce qui peut être brisé, de ce qui peut être disloqué, peut-être, en nous, pour retrouver cette présence de Dieu comme une source qui vient irriguer et qui vient réconcilier les différentes parties de moi-même, donc je le disais, le corps, la sensibilité, l'esprit et la présence de Dieu en nous, et aussi cette relation entre les éléments, et donc avec les éléments du créé.
Sœur Hélène ?
Oui, j'étais en train de me dire qu'en même temps, tous les témoignages de pèlerinage que j'ai pu entendre, souvent les gens finissent par faire des rencontres. Et ils sont toujours touchés. Alors une rencontre, ça peut être bien sûr la rencontre du Christ et la rencontre de Dieu, voilà, sur le chemin. On est là pour ça. Mais c'est aussi toutes les rencontres au long du chemin. J'ai passé quelques années du côté du Puy-en-Velay. Et le nombre de pèlerins de Compostelle qui repartaient, qui voulaient refaire et qui... voilà, parce que ce chemin, c'est vraiment quelque chose de la rencontre de l'autre, voilà, différent, mais qui nourrit, voilà, et qui donne de la vie. Et je crois que le pèlerinage, c'est aussi ça. Voilà. Et puis, bien sûr, la rencontre avec la nature, parce que on marche, on a notre propre corps auquel il faut faire attention, parce que si on le tire trop dessus, il va pas nous emmener au bout. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans la démarche de pèlerinage. Et puis comme on marche, on a le temps. Ça, on revient un tout petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. La marche, on ne peut pas faire 300 km dans une journée, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet justement de prendre, de découvrir et de contempler tout ce qui entoure le pèlerin. Je crois vraiment de cet ordre-là.
Alors à vous entendre tous les deux depuis le début de l'émission, on entend combien tout est lié, ce fameux « tout est lié », beaucoup dit par le pape François. Et ce que lit beaucoup le pape, il parle de « cri de la terre » et de « cri des pauvres ». Il fait le lien constamment entre les deux. On a évoqué la relation de François avec les animaux, avec tout le vivant, avec aussi les lépreux. Est-ce que chez saint François, ce lien, frère Éric Bideau, entre « cri de la terre » et « cri des pauvres » existe, et de quelle manière ?
Oui, parce que tout est élément du créé. Donc il ne s'agit pas d'être simplement dans une esthétique, ce qui serait beau et puis ce qui serait à mes yeux pas beau, je le mettrais de côté. C'est tout est embrassé d'une certaine manière au sens symbolique et au sens propre, hein, puisque François prend le lépreux dans ses bras, parce qu'il voit sous les traits du lépreux, il voit Jésus lui-même. Qui pour nous s'est fait lépreux dans sa passion et sur la croix. Donc il y a une profondeur du regard qui va au-delà du simplement une esthétique un peu chatoyante, mais qui apprend à voir dans la profondeur tout ce qui parle de Dieu comme créateur, rédempteur et sauveur. Je crois que n'arrêtons pas, François, à un horizontalisme dont le ciel serait bouché, j'ai envie de dire. La profondeur de son regard est réelle et elle passe par la résistance de la matière, par la résistance du concret aussi, mais qui devient un regard de plus en plus profond jusqu'à pouvoir dire, et le pape a raison de le dire, il y a une mystique de la feuille verte, il y a une mystique du chemin, de la goutte de rosée et du visage du pauvre. Toujours dans numéro 233, que j'invite vraiment les auditeurs à relire.
Oui, d'ailleurs, on peut inviter les auditeurs, les auditrices à lire ou à relire cette encyclique Laudato Si. Vraiment, ça se lit très facilement. On pourrait avoir peur d'un texte théologique. Alors, il l'est, mais il est tout à fait accessible. Ce que vous venez de dire, en fait, frère Éric, comment ça peut éclairer nos questions d'aujourd'hui et notamment ce défi de faire s'accorder social et environnemental, pour employer des mots concret. On a souvent parlé de l'opposition entre fin du mois, fin du monde, notamment au moment de la crise des gilets jaunes, comme si on ne pouvait pas conjuguer les deux. Est-ce que ce que vous venez de nous dire, et est-ce que saint François nous éclaire sur ce défi-là?
Oui, au sens en ayant conscience que quand on oppose souvent artificiellement les choses, mais à travers le mot peut-être simplicité justement. Simplicité des choix de vie, simplicité du quotidien, simplicité de cette relation à la création, et le mot accompagnement aussi, parce que souvent on oppose les deux parce qu'on ne sait pas très bien comment accompagner des changements qui sont à la fois politiques, économiques, sociaux et la situation concrète des personnes. C'est toujours cette idée que quand on va bouger quelque chose, ça a des implications et il faut essayer de voir ces liens qui vont être impliqués dans les changements que l'on fait.
Alors, la simplicité, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, celui de sobriété aussi. Et en même temps, on entend parler d'écologie punitive. Et il y a cette notion qu'il faudrait aller, faudrait sacrifier des choses pour changer de vie, quoi. Or, chez François, cette simplicité, elle est plutôt du côté de la joie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, sœur Hélène, en fait ? La simplicité, c'est pas du sacrifice ?
Alors, chez François, on pourrait penser des fois, quand on le voit, ces jeunes et tout ça, voilà, qui peuvent un peu faire peur. Il était très radical, mais par contre, il était vraiment très attentif aux besoins de chacun. Je crois qu'il y a quelque chose de ça à faire attention, je crois. Quand il y a un épisode où il y a un de ses frères au milieu de la nuit qui se met à hurler « Je meurs, je meurs ». Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui t'arrive? Je meurs de faim. Ah ben, on va tous manger. Alors qu'ils avaient dû jeûner dans la nuit. Bon, bref, c'est voilà. Et en fait, François fait manger tout le monde lui avec, alors qu'il était très ascétique. Mais en disant chacun à sa mesure, ne pas exagérer ni dans un sens ni dans l'autre. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de qui peut nous donner un horizon pour choisir justement ce dont on est capable dans un premier temps. C'est vraiment de se dire voilà, ça c'est peut-être trop, je vais peut-être éviter, et puis mais surtout ne pas se priver trop au point de faire souffrir son corps, parce que c'est pas le but. Le but de François, il est vraiment de trouver le Christ dans tout ça. C'est quand même son chemin. Il est vraiment un chemin pour aller vers Dieu et avoir une vie la plus heureuse possible. Je crois vraiment.
Chantal est avec nous. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Allez, c'est à vous.
Alors, il faut que j'arrête.
Il faut arrêter la radio derrière, mais tout à fait.
Oui, excusez-moi.
C'est marrant, je le dis tous les matins, ça. Mais je crois que vous ne retenez pas, mais oui. Allez, on vous écoute.
Alors, je disais que avec mon mari, on est très attachés à Saint-François d'Assise pour une raison familiale, voilà. Et aussi pour moi-même, une conversion que j'ai eue. Et en fait, j'aime beaucoup, par exemple, vos émissions de ce matin, entre autres, et la vie des saints qui sont donnés. Je trouve que c'est tellement important pour tout le monde de connaître la vie des saints. Et donc, pour revenir à Saint-François, je crois que Saint-François est de l'époque de Saint-Hildegarde. Et tous les deux, je trouve que, avec leur amour de la nature, la découverte de choses simples aussi. Et Saint-Hildegarde, elle voit dans la nature ce qui est grand et beau, les grands arbres, les belles plantes, et Saint-François voit aussi les toutes petites choses que j'admire dans les enluminures qui sont faites par les moines, qui sont tellement belles et qui nous font découvrir de si petites fleurs que j'ai cherché moi-même dans la nature pour les trouver. Mais tout ça, en fait, ça, c'est pour me dire que la création, Saint-Hildegarde, oui, elle va vers le grand, vers le cosmos, et elle nous y emmène. Parce que j'ai lu...
Chantal,
oui,
je me permets... Ben oui, parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Eh ben voilà, le but, oui, c'est tous les deux, c'est qu'ils nous emmènent vers Dieu.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Chantal d'être venue à l'antenne, voilà, pour conclure l'émission, c'est pas mal. Cette comparaison entre...
Oui.
Ils avaient deux, trois ans d'écart, hein.
Saint-Hildegarde,
mais ils sont pas connus.
Alors, on va peut-être, pour conclure, chacun, vous restez 30 secondes, frère Éric Bidot et sœur Hélène Versavel, peut-être une conclusion en forme d'invitation aux auditeurs, aux auditrices en cette journée de Saint-François d'Assise, cette fête de Saint-François d'Assise. À quoi vous auriez envie de les inviter, frère Éric?
Eh bien, à prendre conscience. Alors, ça peut se faire par un regard porté sur un élément du vivant, sur un élément de la création, du don que représente notre environnement, la création, nous-mêmes, Et je pense à cette parole de Sainte Claire au moment de mourir qui dit « Béni sois-tu Seigneur de m'avoir créé ».
Sœur Hélène Versavel, une invitation aussi aux auditeurs et aux auditrices ?
Comme frère Eric vient de piquer mon idée, j'en prends une autre. J'inviterai simplement les auditeurs qui sont intéressés par la figure de Saint François de se rapprocher de la famille franciscaine. Il existe entre autres la fraternité séculière et c'est vraiment un lieu où on peut découvrir et approfondir la spiritualité franciscaine.
Merci beaucoup. Et puis on peut aller lire aussi tout ce qui concerne Saint François d'Assise. Et comme on l'a dit, relire l'encyclique Laudato aussi, puis Fratelli Tutti aussi. Allez,
La totale,
ne se prive pas, voilà. Et bonne fête à tous les François, tiens, pour terminer.
Ah oui, ça c'est vrai, ça. Ah oui, c'est aujourd'hui. Merci Anne Kerléo.
Merci Melchior.
Merci à vous deux, frère Eric et sœur Hélène. Alors, dans un instant, exceptionnellement, on vous le disait tout à l'heure, il n'y aura pas Je pense donc j'agis, mais on vous propose de réentendre le témoignage du franciscain Hervé Covès, religieux de la famille fondée par François d'Assise et qui a vécu lui-même une véritable conversion écologique. Il s'était confié, vous allez l'entendre au micro de Thierry Lionnet dans une émission Visage. C'est dans quelques instants. Merci à Pierre, à Philippe et à Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis surtout une bonne écoute avec Visage qui arrive dans un instant. Et rassurez-vous, on se retrouve quand même demain de 9h à 11h avec Madeleine Vatel. On parlera de l'affaire des faux médecins, d'où vient la faille. Et puis on essaiera aussi de lutter contre les arnaques et les pratiques frauduleuses. Allez, bonne journée.